Régis Banquet, pour cette deuxième partie de ce Radio Barque, on se retrouve pour parler alors de votre présidence de Carcassonne Agglo, c'est-à-dire la communauté d'agglomération dont vous avez souligné son importance à la fois par le territoire et par le nombre de communes. Mais un thème que vous avez pris d'emblée et qui apparemment vous tient à cœur, c'est la santé. Donc vous avez expliqué que la situation dans notre département et sans doute dans d'autres, elle est identique. Alors, la notion de recevoir des jeunes toubib, par exemple, qu'est-ce que vous en espérez pour l'avenir ?
Alors, on s'est regroupé autour des hôpitaux de l'Ouest audois, c'est-à-dire que l'hôpital de Carcassonne est en relation avec l'hôpital de Castelnaudary et de Limoux, et donc les trois territoires, nous sommes regroupés, les présidents, de façon à faire en sorte d'accueillir dans les meilleures conditions les internes qui viennent travailler non seulement dans les hôpitaux, mais également dans la médecine libérale de nos territoires. Donc c'est pour ça que chaque année, enfin deux fois par an, en mai et en novembre, nous accueillons, nous faisons une cérémonie pour accueillir ces internes-là, pour leur présenter le territoire, les avantages qu'il y a de vivre chez nous, quelque part, hein. On est là pour leur montrer l'attractivité que peut avoir une commune comme Castelnaudary ou Carcassonne ou etc. de façon à ce que ces internes qui passent quand même du temps chez nous soient peut-être incités à s'installer chez nous et à y installer leur activité professionnelle, que ce soit au niveau libéral ou que ce soit en hôpital. Aujourd'hui, je pourrais dire, dans les internes qu'il y avait lors de la cérémonie, il y en avait de partout. Il y en avait de Marseille, de Tours, etc.
Mais qui sont tous à la fac de Toulouse.
Ils sont sur la fac de Toulouse et ils viennent faire leur internat chez nous. Et l'avantage, c'est que en les recevant, on a aussi ce contact direct avec eux qui nous permet de résoudre les petits problèmes du quotidien. Parce que ils n'attendent pas, qu'on leur promette des sommes d'argent, qu'on leur promette des... C'est des petits détails du quotidien qui font qu'ils se sentiront bien dans notre territoire ou pas. Un exemple, les internes m'ont dit qu'à l'hôpital, le service de bus s'arrêtait à 20h, mais que eux, leurs horaires, c'est fin des horaires, 20h30. Pour 30 minutes, ils loupent le bus pour revenir en ville, et donc ça les handicape. On va essayer de retravailler, la desserte de bus de l'hôpital, de façon à pouvoir récupérer ces internes et leur permettre de revenir chez eux en ville, comme on le fait par exemple au niveau de la crèche qui est installée à côté de l'hôpital, où on ouvre du matin 6h au soir 22h pour correspondre aux horaires des infirmières et du personnel soignant.
Oui, une première utilité très concrète de ces rencontres.
C'est des petits sujets concrets qui font que la personne va se dire « Dans ce territoire, je me sens bien, je suis bien accueilli, j'ai l'écoute des élus, j'ai l'écoute de l'ensemble des personnes qui sont sur ce territoire et qui ont en charge certains sujets. » Et donc, comme je m'y sens bien, pourquoi pas n'y passer une partie de ma vie. C'est ça qui est important pour nous. Et au-delà, c'est toutes les politiques que nous pouvons mettre en place, que ce soit les politiques culturelles, les politiques d'emploi pour les conjoints, etc.
Oui, la qualité de la vie, en fait.
Les politiques de qualité de vie qui vont permettre à ces internes de faire, entre guillemets, le bon choix pour nous.
Et si je comprends bien, c'est un processus qui va se répéter, finalement.
Voilà, tous les 6 mois, nous allons recevoir les internes, tout en gardant des liens, avec eux, en dehors de ces réceptions formelles, mais tous les 6 mois, c'est un coup à Castelnaudary, un coup à Carcassonne, nous allons les recevoir pour les accueillir, les écouter, passer aussi un moment de convivialité avec eux, parce que la convivialité et l'accueil, traditionnel
la relation,
que l'on peut avoir...
La relation humaine, tout simplement.
C'est chez nous, ça compte aussi. Et ça, on le fait, non seulement nous, élus, mais on le fait avec tous les professionnels de santé du territoire qu'on invite par l'intermédiaire des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, qui regroupent à la fois les médecins, les paramédicaux, etc., infirmières et autres, kinés, etc., qui sont quelque part nos ambassadeurs auprès des internes et qui font le lien entre, bien, je dirais, la sphère élue, etc., et ces futurs professionnels, en leur expliquant comment eux, en tant que professionnels de santé, ils vivent sur ce territoire-là. Et donc, c'est important pour nous de faire aussi la preuve par l'exemple.
Oui, puis c'est planter des graines qui vont pousser probablement plus tard.
C'est ça.
Alors, un autre sujet, Régis Banquet, qui vous tient beaucoup à cœur, on va juste l'effleurer, et je crois qu'on y consacrera prochainement une autre émission, parce que le temps ne va pas suffire. C'est, alors, l'eau. L'eau, simplement. Dès qu'on vous dit politique de l'eau, pour vous, ça évoque beaucoup de choses.
Alors, l'eau, pour moi, c'est l'enjeu majeur des 30 prochaines années. L'eau, c'est notre avenir. C'est l'avenir de la planète. Parce que s'il n'y a pas d'eau, ou plus d'eau, bien, on ne vivra pas. Nous, l'espèce humaine, mais aussi la biodiversité, l'espèce animale, etc. Donc, aujourd'hui, on a eu un été 2022 qui a été révélateur. Révélateur dans le sens qu'aujourd'hui, plus personne ne peut nier le changement climatique. Et ce changement climatique, c'est quoi? C'est des grandes périodes de sécheresse, 8, 9, 10 mois, et des petites périodes de précipitations, avec des précipitations beaucoup plus concentrées sur le temps, beaucoup plus violentes, beaucoup plus brutales, qui engendrent des dégâts. Et donc, tout ça fait que nous devons nous préparer et anticiper, à la fois sur le pas assez d'eau, sur le trop d'eau, et après sur la raréfaction de la ressource, c'est-à-dire sur le partage. Aujourd'hui, allez, en gros, il y a l'utilisation industrielle, l'utilisation agricole et l'utilisation domestique de l'eau. Bien, chacun court dans son couloir sans écouter l'autre, et on va en arriver à des catastrophes. Parce que
les affrontements sur l'eau.
Les affrontements. Je veux pas vivre sur mon territoire des événements comme à Sainte-Soline dernièrement. C'est pour ça que j'ai organisé il y a quelques semaines des assises de l'eau où il y a eu plus de 250 personnes qui sont venues débattre, discuter, échanger sur tous ces sujets, le passé, le trop et le partage, pour commencer à initier un dialogue. Et qui dit dialogue dit écoute. Et écouter l'autre et le comprendre, c'est déjà un premier pas. Et à partir de là, eh bien, on peut construire des politiques qui seront des politiques de compromis. Parce qu'on ne passera pas, les 20 prochaines années, sans aller vers un compromis. C'est le compromis qui nous permettra d'équilibrer, cette ressource. Et donc, dernièrement, c'était hier, j'ai demandé à mes élus de voter une motion pour saisir solennellement
conseil communautaire pour saisir
solennellement le président de la République pour qu'il fasse de l'eau une grande cause nationale, parce que l'eau est pour moi l'enjeu majeur de ces 20 prochaines années, je le répète, et j'en suis convaincu, et plus je discute avec des personnes, plus les gens en deviennent convaincus. Aujourd'hui, il faut s'occuper de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, et c'est un bien précieux qui doit être commun et qui doit être partagé.
Voilà. Alors, on voit que c'est un très vaste sujet, très évolutif également, et on y reviendra, Régis Banquet, très volontiers.
Sans aucun souci.
Dans de prochaines émissions. Alors, vous présidez également un syndicat mixte. On en avait un il n'y a pas très longtemps, c'était le SMAR avec M. Aversinck. Alors, justement, l'eau, mais là, c'était les inondations, le trop d'eau.
Le trop d'eau.
Mais ça fait partie du problème. Mais vous présidez un autre syndicat mixte qui est le SIADEN. Alors c'est le syndicat audois qui concerne l'énergie et le numérique. Le numérique, grosso modo, c'est l'Internet, le haut débit. Là encore, l'actualité fait que, à propos d'énergie, alors je vais prendre un cas très précis et vous demander des explications, Régis Banquet, vous avez sollicité ou initié un achat groupé de gaz il y a quelques années, ce qui se révèle aujourd'hui avoir été une vision assez prémonitoire de la chose. Expliquez-nous, en grosso modo, de quoi il s'agit.
Alors, il y a quelques années, c'est aux alentours des années 2014-2015, on a souhaité faire en sorte que toutes les communes qui ont accès au gaz dans le département, il y a à peu près 66 communes dans le département de l'Aude sur 433, qui ont un accès au gaz. Ces communes-là négociaient individuellement leur contrat d'alimentation en gaz, ce qui fait que quand on y va un par un, eh bien évidemment, on paye plein pot. En se regroupant, on a réussi à faire gagner sur ces contrats de gaz à peu près entre 30 et 40% aux communes. Donc on a eu la chance d'avoir une baisse toutes ces années sur les contrats de gaz et qui ont fait en sorte que les communes ont gagné des marges.
Et ça, c'était avant la situation actuelle. Avant.
Voilà. Donc on était très heureux d'avoir massifié, je dirais, la commande de gaz pour faire tomber les prix. Voilà. C'était la philosophie. Et donc on passait un marché public en fin d'année pour commander le gaz des deux ou trois années suivantes. Là, on avait le marché qui se terminait fin 2022. Et dès le 24 février, donc la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, on va le dire comme ça.
Oui.
On a de suite senti que ça allait poser un problème sur l'alimentation en gaz au niveau national. Et donc on a essayé de regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs, en France, sur les autres départements, etc. Et on est arrivé à la conclusion que il fallait énormément anticipé pour ne pas subir, je dirais, les augmentations exponentielles de la facture de gaz. Je vous donne juste un chiffre. Dans le marché précédent, nous avions le prix du kilowatt à 18 euros. 18 euros le mégawatt. Pardon. Hein,
le mégawatt.
18 euros le mégawatt. 18 centimes le kilowatt. 18 euros le mégawatt. Aujourd'hui, le mégawatt, il est entre 700 et 800 euros.
Oui, c'est-à-dire, c'est plus qu'exponentiel. Enfin, c'est assez difficile à imaginer, d'ailleurs.
C'est inacceptable. Donc, on a dit, il faut vraiment anticiper. Et donc, au lieu de passer un marché en fin d'année, qu'on aurait payé 700 ou 800 euros hein, aujourd'hui,
on a décidé d'anticiper. Oui, vous avez devancé l'appel, en quelque sorte.
On a décidé d'anticiper, d'aller directement... Je dirais sur le marché, c'est-à-dire à la bourse, etc., hein, sur le marché, bien initier des achats, des réservations de gigawatts sur l'année 2023, 2024 et 2025. Et donc, on a commencé à acheter, je dirais, avant l'été, mai-juin, on a commencé à acheter 40% de la consommation de nos communes pour 2023. Dans l'été, on a acheté 40 à 50% de plus, puisqu'on voyait que ça augmentait. Et à la rentrée de septembre, on a acheté le complément. Les premiers achats que l'on a faits, ils étaient déjà à 80 euros le mégawatt. On était à 18.
18, oui.
80. Et donc ensuite, bon, bien sûr, quand on a vu que ça continuait d'augmenter, on a essayé d'acheter le maximum de gaz pour éviter le choc brutal du 1er janvier 2023. Et aujourd'hui, bon, bien, au lieu d'avoir une facture qui va être multipliée par 10, 20, 30, bien, on aura une facture qui sera multipliée par 5. Alors certes, sera un choc, quand même, ce sera un choc très brutal pour les collectivités, mais je dirais, on a limité la casse. Voilà, il faut se dire ça. Mais il n'empêche qu'une collectivité qui, aujourd'hui, une petite commune, qui avait 10 000 euros de gaz, si elle se retrouve avec 50 000 euros, ça va quand même être un choc pour elle et l'handicapée. Mmh. Et je ne parle pas des grandes communes, qui parfois avaient une consommation... tout à fait normal, hein, qui leur coûtait 1 million. Si je multiplie par 5, ça fait 5 millions. Vous vous rendez compte, ça veut dire que toutes les marges de manœuvre de la commune sont remises en cause par l'augmentation de ces
fonctionnement, les investissements, voilà. bien entendu. Mais voilà. Cette action a quand même finalement largement limité les dégâts.
Limité la casse tout en sachant qu'il y aura quand même un choc très brutal pour les communes à partir de 2023.
Oui. On marque une deuxième pause, Régis Banquet. On se retrouve pour une troisième partie.